Merci, un grand merci pour l'invitation. Je travaille au sein du CIRTES à l'UCL. Et donc, peut-être un premier mot d'abord pour introduire l'étude, la recherche que je vous présente aujourd'hui. Cette étude est un volet d'une recherche plus large qui se termine en septembre et qui est financée donc par la politique scientifique fédérale BELSPO, une recherche qu'on a menée sur les questions d'inclusion et exclusion numérique en partenariat avec la VUB et la Fondation Travail Université, qui est un petit centre de recherche qui n'est pas rattaché à une université mais au mouvement ouvrier chrétien. Et donc ce volet que je vous présente aujourd'hui, c'est donc bien un des volets. Et donc l'UCL était responsable de deux volets, celui-ci, donc sur la partie que je vais expliquer, la partie donc de conception des services. Je préciserai donc ce que j'entends par intérêt général et non pas strictement administration publique. Et c'était mené, donc l'autre volet de l'étude dont l'UCL était responsable, c'était sur les usagers. Je n'ai pas mené, enfin j'ai fait quelques entretiens avec des usagers de différents âges, de différents niveaux socioculturels, hommes, femmes. Il n'y avait pas la dimension de migration, d'origine, de différentes origines, mais voilà. Donc l'idée ici était vraiment d'avoir un double regard sur ce phénomène d'inclusion-exclusion. Donc le côté usager, dont il existe quand même déjà des études d'usage, et notamment nous en avions mené une il y a quelques années sur les personnes, la fracture de ce qu'on dit, la fracture du second degré, qui n'a pas beaucoup de sens. Dominique Pasquier a critiqué le terme tout à l'heure de fracture, mais donc les inégalités dans les usages. Donc il y a quand même une étude qui a été refaite cette année, qui est finie, qui est sur le site d'Idéalic. Et à côté de ça, c'était aussi avoir un regard finalement du côté, c'est moins souvent interrogé, des concepts, ceux qui fournissent les services d'intérêt général. Et donc, le questionnement général de la recherche, il y avait des sous-questions, mais je vous éviterai d'en parler aujourd'hui. C'est donc ici prendre une perspective institutionnelle, non pas les usagers, mais institutionnelle, les offreurs de services d'intérêt général. Quel est finalement, comment ils intègrent la dimension inclusive dans ce processus de numérisation qui est un peu moins loin qu'en France, ici ou en Belgique aujourd'hui, mais on va quand même dans une même logique qui est aussi européenne, de digital by default, hein, le digital par défaut de toutes les administrations publiques et services d'intérêt général et marchands d'ailleurs aussi. Et donc l'idée générale était celle-ci. Ici je vous ai mis deux idées de sous-questionnement, de questions qu'il y avait. Deux grandes idées que je vais vous présenter aujourd'hui. Bon, quelle est la place qu'ils accordent à cette question d'inclusion numérique? Quelle est aussi la conception qu'ils ont de ce problème? Qu'est-ce qu'ils entendent derrière inclusion numérique dans ce processus-là de numérisation? Et puis, une question qui est liée évidemment, c'est quelle forme, de quelle manière ils prenaient en compte la voix, le point de vue des usagers lorsqu'ils numérisent des services souvent déjà bien existants. Donc voilà deux grandes questions d'un objectif plus général. Et donc, comme je vous le dis, je ne vous le disais pas, mais que je voulais dire aussi ce matin, ce qui m'a frappé aussi tout à l'heure, c'est que la personne de terrain, je l'ai appelée Stéphane, voilà. Stéphane a Guillaume, décidément, j'ai un problème avec ça. Ah, Stéphane, pardon. Stéphane a raison, je connais un peu le plan en France d'inclusion numérique, soulignait les points positifs de ce plan parce qu'ils sont partis assez bien pour une fois du terrain pour créer le plan. Par contre, il y a dans ce plan français, parce que je le connais un peu, quelque chose qui m'a frappé en le feuilletant rapidement dernièrement, c'est qu'il n'y a rien sur la responsabilité ou la sensibilisation en tout cas et la responsabilité des acteurs du monde numérique dans cette inclusion numérique. Donc les mesures qui sont prises, les recommandations, c'est toujours pour l'accompagnement et la formation des usagers en tant que tels, des personnes de première ligne, enfin des professionnels qui les accompagnent, pas un mot sur le monde du numérique. Et donc cette recherche-là vise aussi à lever le voile et à rappeler que ce n'est pas qu'une responsabilité individuelle de l'usager, mais c'est aussi une responsabilité collective des acteurs du numérique et donc des services, ici en particulier des services publics qui ont un rôle particulier à jouer puisqu'ils doivent donner accès de manière équitable à tous les usagers à leurs services. C'est encore différent que les services marchands. Alors, quels organismes ont été étudiés? Trois organismes qu'on a appelés d'intérêt général, je vous expliquerai après, parce que ce que j'entends, c'est plus large par ça. Un partenaire informatique d'instance publique régionale. Alors lui, il n'est pas en contact direct avec les usagers, mais par contre, il fournit des solutions informatiques à la région et aux communes de cette région. Et donc, toujours dans l'idée de voir comment ils prenaient en compte ces questions d'inclusion dans leur processus de numérisation. Une entreprise de transport public pour la deuxième étude de cas. Et une mutualité. Alors, pourquoi ces trois organismes-là? Bon, l'idée était tout d'abord de prendre des organismes qui étaient... Bon, c'était un peu arbitraire, c'était aussi en fonction des entrées qu'on avait, ça il faut bien le reconnaître. C'est toujours comme ça dans les enquêtes de terrain, mais l'idée aussi était de prendre des dimensions, des secteurs d'intérêt général qui étaient importants, la santé par exemple, le transport public était un secteur important d'intérêt général, et la question est l'administration. Finalement, le partenaire informatique représente l'e-administration, l'entreprise transport public, l'e-mobilité si vous voulez, et l'e-santé pour la mutualité. Donc des secteurs importants d'intérêt public. Alors, qu'est-ce qu'on entend par service d'intérêt général ou intérêt public? Bon, il fallait évidemment définir ce qu'on entendait par là. Il y a une littérature énorme sur qu'est-ce qu'un service public, c'est quoi la différence entre service public et service d'intérêt général. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Retenons ici que pour l'étude, on a pris une conception large, fonctionnelle. Ça veut dire quoi, large et fonctionnel? C'est que ça peut être un éventail d'activités, donc de nature différente. Hein, là, vous le voyez, transport public, soins de santé, services administratifs. Donc, c'est dans des secteurs différents. Ça peut avoir des formes organisationnelles différentes. Donc, ce n'est pas spécialement des administrations publiques. Donc, ce n'est pas strictement public. Par exemple, typiquement, les mutualités, ce sont des organisations sociales, hein, mais qui ont une vocation d'intérêt général, donc qui ont des socles et des principes communs au-delà de leurs différences organisationnelles et leur champ de compétences. Donc elles ont une mission d'intérêt général, elles répondent à des besoins collectifs qui évoluent dans le temps. Voilà. Et donc les principes communs, c'est qu'il y a le principe, évidemment, c'est aussi ça qui est intéressant d'étudier dans ce secteur-là en particulier, les principes d'égalité, de continuité, d'adaptabilité, donc qui se doivent donc d'être accessibles toujours à tout le monde, de s'adapter aux besoins des personnes, la neutralité aussi, et donc évidemment ça a du sens de questionner l'intégration, le développement du numérique, la numérisation des services dans ces secteurs-là. Alors, rapidement, pour l'approche plus théorique, c'est une approche inspirée de ce qu'on appelle le façonnage ou la construction sociale des technologies. En très gros, c'est l'idée que la technologie n'est pas... La technologie, déjà, qu'on parle comme si c'était une entité abstraite, mais non, les objets technologiques, les innovations, même plus largement, elles ne sont pas neutres. Elles ont une épaisseur sociale, puisqu'elles-mêmes ont été construites, imaginées, d'abord imaginées, et puis développées, et mises en œuvre par des personnes. Donc il y a des choix sociaux qui sont évidemment derrière ces technologies, de choisir telle option et pas une autre option. Donc il y a une épaisseur sociale de ces dispositifs techniques qui, eux, cette épaisseur sociale et la manière dont elles sont pensées, finalement, contribuent à produire la société et les usages qu'on en a. Donc c'est l'idée de se dire qu'il y a une imbrication étroite entre la technique qui est elle-même construite socialement par des acteurs et des décisions tout à fait sociales, et donc le social, bon, il y a une imbrication très forte entre les deux, et donc les conceptions et les choix qui sont incorporés dans ça, ici les services en ligne en particulier, dont la manière dont ils ont été configurés, orientent les usages, même si ce n'est pas déterministe, ça veut dire qu'il n'y a pas que ça. Évidemment, les usagers, on peut avoir des actions en retour, mais il y a quand même cette idée-là, qu'il y a une contrainte de la technique sur l'usage. Donc l'idée était pas vraiment de saisir les dimensions prescriptives du design, oui, aussi de voir comment finalement la manière dont la technologie et le service est pensé, ben, ça influence la manière dont elle a été utilisée, mais surtout ce qui nous intéressait, oui, j'ai oublié de vous dire ce qu'on avait fait dans les études de cas, la méthodologie utilisée. Ce sont les valeurs et les principes que les acteurs qu'on a rencontrés tenaient. Donc les valeurs et les principes qui étaient traduits finalement en service numérique au format plus ou moins inclusif. Donc j'ai oublié de dire que les études de cas, les organismes que je vous ai dit, on a mené une méthodologie d'études de cas. C'était surtout l'analyse de documents qui nous étaient disponibles ou les acteurs voulaient bien nous donner. Et surtout, on a rencontré des acteurs de la conception au sens large du terme. Donc ça peut être tant des acteurs du service de l'IT, donc des services informatiques, beaucoup de gens aussi du service, des services marketing, parce que c'est eux qui sont au pilotage justement de cette transformation numérique. On a eu aussi des services, on a eu des départements d'affaires sociétales qui s'occupaient plus par exemple dans le transport public, qui avaient des activités avec des associations locales, donc qui représentaient des usagers plus faibles. On a eu aussi, des directeurs des différents organismes. Donc l'idée était d'interroger la manière dont les concepteurs, ceux qui conçoivent les services, les imaginaient. Et donc on s'est fort basé sur les discours. Et une limite à nos études de cas, c'est qu'on n'a pas été faire, et ça aurait été passionnant, mais il faut énormément de temps pour faire ça, une ethnographie, c'est-à-dire aller regarder finalement comment le service se construit par des décisions quotidiennes, bon, de faire vraiment du terrain ethnographique, c'est un manque. Bon, voilà, c'est une des limites de l'étude, on est toujours pris aussi par le temps. Alors, la grille d'analyse, je viens de vous parler de l'idée que les technologies, on ne doit pas les considérer comme quelque chose, en tout cas les services en ligne, quelque chose de neutre, mais bien qu'elles sont construites socialement, elles ont donc une épaisseur sociale, elles sont porteuses de principes et de références spécifiques, venant des personnes qui les imaginent et qui les mettent sur le marché. Et donc, pour comprendre comment ces principes impactent la numérisation, on a pris un cadre d'analyse qui s'appelle la sociologie des mondes de Boltanski, Thévenot et Schiapello. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce cadre théorique, mais l'idée de cette sociologie des mondes, c'est de... En fait, chaque monde, je vais vous présenter ici le slide différent. Excusez-moi, ça c'est la partie de ma collègue que je n'ai jamais présentée, donc je suis toujours un peu moins à l'aise avec cette partie-là, parce que je ne l'ai jamais présentée personnellement. Donc en fait, l'idée était d'essayer de saisir, comme je vous le disais, les valeurs et les principes que les personnes qui conçoivent les services, comment ils justifient le fait qu'ils numérisent les services et comment ils justifient l'inclusion numérique, comment ils la conçoivent, comment ils l'expliquent. Et donc, pour expliquer ces justifications, on mobilise toujours des registres de justification, c'est-à-dire qu'on se réfère à un système de valeurs. Et donc, pour Laurent, pour Thévenot et Schiapello et Boltanski, chaque monde, et là vous voyez trois mondes ici qu'on a repris, il y en a cinq ou six en tout, chaque monde représente un système de valeurs, c'est-à-dire que pour justifier les actions, au quotidien, les acteurs, pour justifier qu'ils numérisent les services, pour justifier qu'ils font de l'inclusion numérique, ils s'appuient sur des valeurs. Ils font référence à des mondes spécifiques. Et ce qui est intéressant de remarquer, pourquoi on a pris ce cadre d'analyse-là, c'est qu'au départ, on est rentré dans les organismes et on s'est dit, bon, ils doivent bien avoir une stratégie numérique, en tout cas à l'échelle de l'organisme, avec une place dans laquelle ils donnent une place spécifique à l'inclusion numérique. Et on s'est vite rendu compte que finalement, il n'y avait pas un plan, une stratégie, un plan d'action défini pour ce développement du numérique, mais il y avait bien, on se retrouvait sur le terrain face à une multitude de conceptions de ce qu'était la numérisation, de conceptions de ce qu'était l'inclusion numérique, des raisons de l'affaire. Donc en fait, il n'y avait pas une voie au niveau de l'organisme qui avait pensé en amont, en tout cas pendant que c'était en train de se faire, une stratégie relativement définie avec un objectif. Non, il y avait la numérisation qui était quelque chose d'incontournable et qui apparaît bénéfique pour tout le monde, mais il le justifiait. Il le justifiait par toutes des raisons différentes. Et donc, c'est intéressant de voir qu'on a retrouvé différentes conceptions de l'inclusion numérique dans les discours des acteurs. Et donc là, il y a trois mondes, le monde marchand, le monde industriel et le monde civique. Alors, pour vous dire rapidement, là, je reprends juste les notes de ma collègue pour être sûre de ne pas me tromper. Le monde civique, ce qui est, évidemment, comme son nom l'indique, dans le monde... civique, l'importance ici, ce qui est grand, donc ce qui est positif, c'est tout ce qui touche à la représentativité au collectif, hein, le monde civique du citoyen, et ce qui est plus petit, ce qui est plus négatif, c'est l'individualisme, l'arbitraire. Et donc le monde industriel, c'est tout ce qui est positif dans une vision industrielle, hein, c'est ce qui est efficace, ce qui est performant. Évidemment, le service IT souvent se retrouvait dans ces justifications-là. Ça doit être performant. Et évidemment, ce qui est petit, ce qui est plus négatif, c'est ce qui est improductif, qui n'est pas optimal de manière logique. Et au sein du monde marchand, comme le terme l'indique, ce qui est plutôt positif, c'est ce qui est désirable, ce qui se vend bien. Hein, on parle beaucoup en termes de clientèle. Et ce qui est petit, c'est évidemment ce qui ne l'est pas. Et donc, en fonction des départements qu'on consultait, on a remarqué différentes justifications à l'inclusion numérique. Et donc, dans le monde marchand, en gros, ça reflète très fort tout le département marketing qui est très, très prédominant, évidemment, dans cette numérisation. Les départements marketing, c'est eux qu'on a eu quasiment le plus, avec qui on a eu plus d'échanges. Bah, l'inclusion numérique, bah, c'est pour, évidemment, capter une clientèle plus importante. Hein. Et les justifications qu'il y a derrière, c'est qu'on gagne des parts de marché, on baisse les coûts de fonctionnement, et donc ça, c'est important. Et là, ici, l'inclusion numérique, quand on les interroge, c'est plutôt comme un moyen à des fins, ben, justement, de commercialisation, de gain de coûts, etc. Le monde industriel, et ça, c'était surtout les services de l'IT, évidemment, où ça sortait de cette manière-là. L'inclusion numérique, c'est rendre les services efficaces. Ah oui, l'efficacité, ça, on en a entendu beaucoup parler. Ça rationalise, ça enlève la paperasse, c'est efficace. Et donc, typiquement, l'argument, c'est ça. On désengorge les guichets qui sont encore pour l'instant existants, mais on est quand même en train de voir un détricotement des guichets physiques. Mais bon, on désengorge les guichets, on réduit la paperasse, on rationalise le travail, comme je vous le dis. Et donc là aussi, l'inclusion numérique est vue comme un moyen. Et donc finalement, le monde civique, finalement, il y a le moins de personnes qu'on a rencontrées qui s'inscrivaient dans cette justification-là. C'était plutôt ceux qui défendaient les usagers, qui travaillaient avec les usagers plus faibles. Il y avait dans le secteur du transport public, dans l'organisme de transport public, il y avait un monsieur accessibilité qui veillait justement à l'accessibilité des transports publics et aussi maintenant des services en ligne. Bien, lui s'inscrivait typiquement dans le monde civique. Il était tout seul dans son département. Ça, c'est ça. C'est intéressant. Oui, parce qu'ils étaient 15 dans le marketing, mais il était lui tout seul, ça aussi, hein, ce sont des rapports de force importants. Et donc là, évidemment, l'idée, c'est qu'on œuvre pour le bien commun et l'inclusion numérique est une finalité, là, dans cette idée-là. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu donc qu'il y a des conflits qui apparaissaient. Pas des conflits énormes, ouverts à ce point-là, mais entre les différents acteurs qui défendaient différentes conceptions et différentes finalités de l'inclusion numérique, on a vu en place la mise en place, donc, on voyait qu'il y avait des conflits sur comment finalement envisager cette numérisation. Et donc, pour dépasser ce conflit, en fait, la numérisation marquait vraiment une incertitude dans ces organismes d'intérêt général. Il y avait cette impression que la numérisation était un passage obligé, que ça s'impose, hein, je parlerai de l'impensée après, ça s'impose à nous, mais comment y arriver? Eh bien là, au-delà de l'idée que l'inclusion numérique était quelque chose d'important, personne ne nous a dit évidemment le contraire, les justifications étaient différentes, et comment ils ont fait pour essayer de trouver des compromis finalement entre ces situations? On voyait émerger ce qu'on appelle des dispositifs composites. Alors, c'est quoi des dispositifs composites? Je vais vous donner des exemples concrets pour que vous compreniez bien, mais en fait, se mettaient en place des décisions très concrètes, des décisions concrètes qui permettaient de faire des ponts entre les différentes logiques dont je viens de vous parler, entre les logiques qui relèvent du monde marchand et du monde industriel. Je vais vous donner des exemples de dispositifs composites, comme on appelle ça, où en fait c'était des décisions, des compromis que les différents acteurs des différents départements trouvaient et mettaient en place des choses spécifiques pour essayer d'accorder, si vous voulez, les violons de tout le monde. Alors, typiquement, c'est l'application des normes d'accessibilité à la carte. Vous savez qu'il y a des normes, sans doute, d'accessibilité qui sont dictées notamment par un organisme international. Alors, évidemment, typiquement, dans l'organisme de transport public où il y avait Monsieur Accessibilité, comme on l'a appelé, ben, lui, il défendait évidemment à ce que les sites Internet soient en règle par rapport à ces normes. Et puis, par rapport à ça, on avait le monde marketing, et les gens nous disaient, ben, oui, mais en même temps, c'est pas très sexy, un site qui est complètement à ces normes-là, et donc il y avait une application des normes d'accessibilité à la carte. On choisissait certaines normes, mais pas d'autres, parce qu'il fallait faire vraiment un pont entre, il ne faut pas faire fuir d'autres utilisateurs qui vont peut-être trouver notre site moins sexy. Et donc il y avait des choix entre ce qu'on gardait et ce qu'on prenait. On voit vraiment comment il y avait des compromis qui se faisaient. Un autre compromis très intéressant, c'est à la mutualité, un chat. Hein, les chats sur le site, on pouvait chatter, on peut poser des questions via le chat, qui se refuse à devenir un bot. Un bot, donc, c'est le robot, il y a de plus en plus ça, les chatbots. Et là, c'était intéressant parce qu'on a eu les visions des différentes parties prenantes. Et là, la mutualité, qui est quand même un organisme social, qui est aussi un mouvement social, se refusait, alors que la personne responsable du site Internet leur disait « mais ça va vous faire gagner des coûts, enfin, ça va vous faire gagner de l'argent si vous mettez un chatbot, donc un robot ». Mais donc, ils ont pris la décision « non, on met un chat, mais on laisse une personne réelle derrière ce chat, parce que les personnes arrivent sur notre site en posant des questions délicates, et donc là, on se refuse ». Là, il y avait vraiment des compromis. On se refuse à mettre un robot pour parler de ces questions délicates. Un dernier type de dispositif composite, c'est les aménagements des conditions d'accès des documents numérisés. On laisse encore, pour l'instant, bon, ça, c'est pas dit clairement, mais on le comprend, il y a encore accès à des guichets physiques, mais qui se, quand même, donc, pour qu'on se rende bien compte que tout le monde n'a pas encore accès aux documents de manière numérique. Mais donc, on rationalise quand même l'accès à ces guichets, on ramène les guichets dans les grandes villes, on supprime les guichets dans les plus petites villes ou dans les zones rurales. Et donc, il y a aussi un compromis entre ces deux mondes. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que donc, même s'il y avait, comme je viens de vous le dire, différentes conceptions de l'inclusion numérique et finalité, il y a quelque chose qui est... C'est quelque chose qui est vraiment nous a frappé dans ces études de cas. On avait mené une trentaine d'entretiens. Et ça peut paraître peut-être un peu stéréotypé, mais c'est ça qu'on a rencontré. C'est qu'au-delà des différences, tout le monde s'accorde, tous les acteurs rencontrés s'accordent sur l'idée, de je vous disais tout à l'heure, que ce mouvement est inéluctable et est profitable à tous. Même aux déconnectés qui finiront par être connectés parce que c'est un mouvement naturel et que pour l'instant on leur laisse des guichets et on permet de désengorger justement ces guichets, puisque ceux qui savent utiliser Internet vont sur Internet, comme ça eux ont plus de temps avec la personne physique. Et donc il y a une idée d'impensé, Enfin, c'est pas nous, ça vient pas de nous ce terme, ça vient de Pascal Robert, qui est un chercheur en sciences de l'information et de la communication, où l'impensée liée à ces technologies numériques, où on ne les questionne plus. Et ça, c'est, moi je rencontre tous les jours ça quand j'entends même à la radio, et on ne questionne plus le bien fondé de cette numérisation. C'est vu comme quelque chose, comme je l'ai dit, incontournable et positif, et donc ça, ce n'est plus une question. La question, c'est comment on va y faire face. Alors, je ne dis pas qu'on doit arrêter la numérisation, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a plus de questionnement sur le bien fondé, sur la pertinence de mettre du numérique partout comme on le fait actuellement. Ce n'est plus questionné, ce n'était pas questionné par les acteurs qu'on a rencontrés. Donc, il y a un accord qui était autour de cette idée-là. Elles ne sont pas soumises à justification, ça ne se justifie pas, ça s'impose naturellement. Et donc il y a ces trois idées qui sont notées, c'est que la numérisation améliore, comme je disais, l'efficacité des services, même pour les non-connectés, je vous ai expliqué, hein, cette idée que ça désengorge les guichets. On ne nous dit pas si ça va être complètement démantelé par après, mais on a quand même l'impression que c'est en cours, mais là c'est un jugement de valeur, bon, j'espère que ce ne le sera pas, mais... La numérisation permet une personnalisation des services, ça aussi c'est vu comme positif par tout le monde. L'usager, cette idée est inclus d'office. Oui, puisque maintenant, grâce aux algorithmes, on nous envoie l'information personnalisée. Ça, c'est vu comme aussi de l'inclusion. En fait, ça soulage l'usager, surtout l'usager qui ne sait pas bien maîtriser les technologies numériques. On lui envoie la bonne information, enfin, l'information qui lui convient, justement. Donc, on lui donne, on l'inclut d'office. Il y a cette idée-là aussi, puisqu'on lui pousse l'information vers lui. Ça questionne, hein, en termes de liberté de choix et de quelles informations viennent vers vous et tout. On n'a pas le temps de discuter de ça non plus de manière plus approfondie. Et la numérisation, comme je le dis, est un mouvement naturel et donc tout le monde finira par s'adapter de toute façon à cela. Donc ça, c'était quelque chose de vraiment très important. Alors, cette pensée numérique, finalement, on amène à une situation de... un contexte de dépendance au numérique. De dépendance au numérique, c'est les politiques de transition numérique, comme je le disais tout à l'heure, elles sont pensées au niveau européen, ça épouse vraiment une logique de digital par défaut. Le digital est la voie par défaut, et puis après, on pense peut-être à des alternatives, on ne sait pas pour combien de temps elles vont durer, ces alternatives, en Belgique en tout cas, mais par après. Et donc les offres, et ça c'est frappant aussi, et les services qu'on a analysés sont pensés avant tout pour des individus qui sont supposés utilisateurs. Ça c'est important. Et donc ça pousse, l'usager est considéré a priori, ça on nous l'a dit, on peut retirer les phrases telles quelles des entretiens, comme mobile et connecté. Et donc évidemment c'est assorti d'une injonction à l'utilisation de ces outils numériques, et il y a cette logique de responsabilisation individuelle face à ce que j'ai appelé l'activation numérique. Je disais tout à l'heure, c'est aux personnes de s'adapter à la transformation numérique qu'on ne questionne pas vraiment, ou peut-être pas assez. Donc ce qui est vraiment problématique aujourd'hui, et c'est ce qui change, je pense, par rapport à avant et en France, avec la dématérialisation massive maintenant, c'est vraiment évident, c'est pas l'environnement numérique en soi qui pose là problème, mais c'est ce caractère incontournable. C'est ça qui risque d'augmenter, enfin qui augmente les risques d'exclusion. On parlait tout à l'heure des personnes qui se refusaient, il y en a beaucoup à utiliser le numérique. Il y a un chercheur français dont on a parlé, dont on a dit le nom tout à l'heure, dit oui, ces personnes, il y a beaucoup de gens encore qu'on appelle, qui refusent, mais qu'est-ce que vont devenir ces personnes si elles gardent cette position dans une société où tout se numérise? Ça pose la question du libre arbitre très très sincèrement. J'ai encore combien de temps, plus ou moins? Oui, j'ai encore un petit quart d'heure, oui, voilà. Oui, mais ça va, c'est bon. Alors, la deuxième grande partie de l'étude était la question dont les usagers, finalement, étaient pris en compte dans la conception de ces services. Alors, il y a déjà eu beaucoup, c'est pas neuf de faire des études sur la manière dont les concepteurs des services numériques et des innovations auparavant prennent en compte les usagers pour développer des services en ligne ou des innovations qui soient évidemment adéquates aux besoins de l'usager potentiel. Et bon, mais il y a des choses nouvelles qui apparaissent maintenant justement avec la montée du big data et des algorithmes. Qu'est-ce qu'on a nous repéré ? On a repéré deux grandes manières de prendre en compte les usagers dans le développement de ces services. Alors d'abord par la représentation très classique, hein, qui n'est pas due qu'à la numérisation. Hein, on fait souvent ça dans beaucoup d'endroits. Une représentation indirecte des usagers, donc il y a des porte-paroles d'usagers. Hein, mais évidemment, ce qui est intéressant, c'est le choix des porte-paroles indique beaucoup sur la place qu'on donne aux publics vulnérables ou qui ont plus de difficultés vis-à-vis du numérique. Attendez, je vais boire quelque chose. J'ai un chat dans la gorge. Donc, les porte-paroles. De manière générale. Pardon ?
Un chapeau.
Le partenaire informatique, il faut dire qu'on a mené. Je voudrais quand même le dire tout à l'heure, il y avait quelqu'un de bon, bref. L'enquête a été menée en 2016 et il y a beaucoup de choses qui ont été entreprises au sein de ce service, justement, parce qu'ils ont été fortement sensibilisés à la question. Donc voilà. Mais au moment de l'enquête, il est vraiment ressorti que finalement, qui étaient les porte-paroles des usagers ? Ben, c'était les professionnels qui concevaient les services. Il n'y avait pas vraiment de porte-parole. C'était souvent les personnels de l'IT qui faisaient le service, les concepteurs ou les designers, qui étaient le porte-parole par défaut d'un usager relativement, je me rappelle une interview, un usager lambda. On m'a dit, notre service, c'est pour l'usager lambda. Bon, ben, évidemment, l'usager lambda, le fait d'être un usager lambda, c'est une personne. Et donc, le fait d'être une seule personne, ce n'est personne. Bon. Et donc là, il y avait quand même cette idée qui était fort latente que la numérisation améliore l'efficacité du service et donc le service rendu. C'était assez ça qui était présenté dans les entretiens. C'est porteur en soi d'inclusion parce que c'est disponible 24 heures sur 24, etc., etc. Donc il y avait fortement cette logique à ce moment-là en 2016. Donc finalement, peu de réflexion par rapport à la place de l'usager à ce moment-là. Dans l'organisme de transport public, il y avait des représentants internes. Je vous ai parlé de Monsieur Accessibilité. Il y avait aussi tout un département qui s'occupait donc de services à la société, donc qui était en lien avec des associations de quartier. Donc c'était eux les porte-parole finalement des usagers plus faibles entre guillemets. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui est frappant, c'est qu'il y avait peu de moyens dédiés. Monsieur Accessibilité, j'ai une phrase dans l'entretien, il dit ben, « Le service, vous avez tout le service face à vous », il nous dit, parce qu'on était deux. Donc voilà, ça dit beaucoup aussi les moyens qui étaient dédiés par rapport à cette intervention-là. Et quand ils intervenaient dans le travail de conception, c'était de manière très ponctuelle, c'était pas pris du tout en amont. De temps en temps, on lui demandait son avis, il faisait des groupes d'utilisateurs avec des personnes handicapées ou des personnes qui sont porteuses en handicap, mais c'était assez limité. Et quand il faisait justement des personnes qui sont considérées comme faibles vis-à-vis du numérique ou en difficulté avec le numérique, c'était très stéréotypé. En gros, et ça on retrouve un peu peut-être moins dans la mutualité, mais en gros, les personnes en difficulté avec le numérique, ce sont les personnes en situation de handicap et les seniors. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de fondamental qui, selon moi, vient vraiment de cette impensée dont je parlais tout à l'heure. Il y a une sorte d'invisibilisation. On nie, c'est comme s'il y a un déni de ces difficultés et tout simplement des situations d'usage réel des personnes, pas spécialement en difficulté, mais ils ne prennent pas en compte le monde des usagers dans la pluralité. Et je pense que ça vient vraiment de cette impensée. Et d'ailleurs, les chiffres, il y a peu de statistiques en Belgique par rapport à ça. Le problème n'existe pas. Ce sont quelques retardataires, ce sont les vieux qui vont bientôt mourir. Non, mais je grossis un peu le trait, mais c'est presque ça, pas tellement d'ailleurs. Et donc, de toute façon, tout le monde va être inclus, ou ce sont les personnes handicapées. Et donc, ça, c'est un vrai problème, la reconnaissance sociale du problème. Voilà, ça, c'était vraiment quelque chose de fondamental, je pense, qui vient de cette... hier, je lisais un article, justement, on parlait de conditionnement culturel, où il faut imposer le numérique et que la technologie numérique, c'est le progrès. Ce matin, Dominique Pasquier parlait du fait que chez les usagers et nous, dans nos entretiens d'usagers aussi, les plus éloignés du numérique voient comme le sésame le fait d'avoir les technologies numériques parce que c'est la réussite sociale. Eh bien, dans le chef des concepteurs, c'est aussi cette idée-là. La technologie numérique, c'est le progrès. Il y a un conditionnement culturel qui est très fort et qui imprègne énormément le développement de ces services. Et donc, au niveau de la mutualité, comme c'est aussi un mouvement social, il y avait quand même une tradition de dialogue beaucoup plus avec les premières lignes. Et donc, il y avait un échange plutôt au niveau de la conception. Mais il n'y a rien à faire, ça reste basé sur des jeux d'alliance et des jeux de pouvoir en interne. Et donc, évidemment, c'est jamais optimal non plus. Mais là, il y avait quand même une prise en compte. Les porte-paroles, c'était des personnes de première ligne et des associations d'usagers qui était assez bien écouté et de manière permanente, plus permanente en tout cas. Je terminerai, je fais ça puis je vais aux conclusions, comme ça enfin, je termine dans le slide. Et une deuxième manière de considérer les usagers, c'est de considérer la voix des usagers, c'est une implication directe. Ça c'est très à la mode aussi, on implique directement les usagers ou en tout cas des représentants directs, donc des personnes, des groupes d'usagers qui représentent le profil. Alors il y a les méthodes très classiques issues du marketing qui sont déjà qui sont vieilles, elles ne sont pas nouvelles, ce n'est pas lié au big data, c'est à des fins évidemment de segmentation du public cible, les enquêtes de satisfaction, les focus group, les tests d'utilisation. Donc l'idée est évidemment de faire des profils types des futurs usagers. Et là, de nouveau, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une vision très peu affinée des situations d'usage et des situations d'usage difficiles. Donc les focus group, c'était avec les personnes en situation de handicap, avec les seniors. Voilà. Donc ça, c'était vraiment c'est quelque chose de fort dans l'enquête. Sinon, de plus en plus, quelque chose qui maintenant, quelque chose qu'il faut atteindre pour nombreux concepteurs, c'est évidemment saisir les comportements des usagers via les big data. Donc grâce aux big data, on a la trace des usagers. Et évidemment, pour ceux qui veulent comprendre le comportement des usagers pour anticiper leurs besoins et leur offrir le service le plus adéquat, c'est un peu une mine d'or. Et donc, s'ils n'étaient pas tous vraiment au fait, ils le font tous un peu en tout cas, mais pas tous de la même manière, c'est vraiment cette idée de prendre les traces numériques les traces numériques révèlent les besoins des futurs usagers. C'était assez fort. Et donc, ce n'est plus la voix des usagers, la vie des usagers qui compte, mais bien ce qu'ils font au plus près de ce qu'ils font, comme dit Dominique Cardon sur Internet, qui compte. Et donc là, ça pose une vraie question qui était peu interrogée aussi au sein des services qu'on a analysés. C'est qu'on leur dit, oui, mais si vous faites vos services à partir des personnes qui sont qu'en ligne, finalement, et que vous concevez les services en fonction de leur trajectoire d'usage et de leur... vous répondez à leurs besoins, mais ceux qui ne sont pas en ligne ou moins en ligne ou qui laissent moins de traces, qu'est-ce que vous faites? Il y avait quelque chose d'un peu aussi un impensé, une invisibilisation comme ça des silencieux ou des moins actifs sur la toile, qui était assez fort. La dynamique de co-création des services, on n'y était pas encore permanente, on était loin, c'était des perspectives, mais on était loin d'y être. Alors pour terminer, j'arrive à mes deux slides de conclusion, des conclusions et perspectives générales. Ce qui nous a frappé, donc, c'est que finalement, cette numérisation a l'air de s'imposer un peu de manière naturelle, en tout cas de manière incontournable dans les services. Et qu'il n'y a pas vraiment, c'est pas inscrit dans un projet commun au service du collectif. Donc nous, on dit bon, inscrire la numérisation des services d'intérêt collectif dans un projet au service du collectif en mettant le citoyen et non pas le consommateur. Ça aussi, il y avait un changement dans le langage aussi dit, notamment le transport public, ce n'est plus l'usager mais bien le client. Donc au service du citoyen, non pas du client, mettre le citoyen en son centre. Et donc, ça, c'est toute l'étude aussi qui veut le faire, c'est rappeler, comme je le disais, il n'y avait pas en France, dans la stratégie d'inclusion numérique, rappeler aussi la responsabilité collective donc, de ces acteurs-là pour une numérisation inclusive et pas toujours mettre la responsabilité sur l'usager. Et donc, ce soit là, les services qui s'adaptent aux usagers et non l'inverse. Et donc, ce qu'on a aussi fortement vu, c'est qu'un des arguments qu'on nous sortait beaucoup, c'est oui, mais notre service public de base, ce n'est pas l'accès au numérique, c'est le transport public, c'est la mutualité, par exemple. Et donc, les personnes qui n'ont pas le numérique ou qui n'ont pas le smartphone, eh bien, elles ont quand même encore accès à nos métros, nos trams, etc. Donc, c'est l'idée. Donc, le service est maintenu de base, il est là. Et donc, ça crée, en tout cas, il faudrait anticiper le risque de développer des services à deux vitesses. Ceux qui ont leur smartphone, ils peuvent avoir justement les horaires en temps réel. Ah, tiens, mon tram a du retard, j'ai le temps de faire quelque chose ou de faire un saut, ceci, cela. Et ceux qui doivent aller à l'arrêt du bus ou à l'arrêt de tram pour avoir accédé au service public. Et donc quelque chose d'important qui pour moi vient vraiment de cette impensée du numérique, c'est reconnaître socialement ces situations de vulnérabilité. Et donc ça va aussi dans le fait de faire des statistiques, bon, des enquêtes qualitatives, elles sont généralement moins entendues par les politiques, mais le problème n'existe pas, il n'y a pas peu de chiffres là-dessus. Et donc ça, c'est important de favoriser cette reconnaissance sociale des situations de vulnérabilité sur le plan d'usage. Et donc, ne pas occulter la dimension sociale de la numérisation. Oui, c'est un slide que j'ai sauté, mais de se rendre compte aussi, ça c'est important, que le personnel de première ligne, à part dans les mutualités, était très peu enrôlé dans ces projets de numérisation. Il n'était pas pris en compte. Et donc, alors qu'on sait bien que c'est eux qui sont en contact direct, finalement, avec les usagers finaux, entre guillemets, c'est eux qui vont peut-être être amenés à répondre à leurs questions s'ils ont des difficultés. Et en plus de ça, ça crée beaucoup de crispation parce qu'on ne les a pas rencontrés directement, mais on sentait que c'était un sujet de crispation parce qu'ils ont peur, évidemment, de perdre leur emploi, puisque ce sont voilà, le personnel de première ligne. Et donc, c'était un sujet très sensible. Et à part dans la mutualité, où là, ils étaient relativement pris en compte, eh bien, dans les deux autres études, ils n'étaient pas partie prenante du processus, alors que c'est un élément essentiel. Et donc, par rapport aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, développer une réflexion globale sur la place respective des médiations humaines et techniques. Tout à l'heure, une personne de Max parlait du fait de rétablir peut-être le papier. Mais moi, j'avais envie de dire tout à l'heure, mais oui, moins que le papier, c'est vrai que le papier a toujours aussi posé des problèmes pour les personnes illettrées, mais c'est de ne pas rétablir, ou en tout cas laisser la médiation humaine. Et tout à l'heure, quand je demandais à Dominique Pasquier ben, quelles étaient les stratégies de contournement, eh bien, une des stratégies de contournement évidentes, c'est de faire 30 km pour aller justement à un service où on rencontre quelqu'un, une vraie personne, et c'est d'autant plus, c'est d'autant plus important que ces services-là, comme je le disais tout à l'heure, sont en train d'être doucement démantelés, c'est-à-dire qu'on les regroupe dans les villes les plus importantes. Et donc, les personnes qui vivent en zone rurale, qui ont souvent, parfois aussi, souvent, le plus besoin de cette aide humaine, ils doivent faire des kilomètres pour les avoir et tout. Donc, je pense que cette réflexion, cette promesse de dire que la technique va remplacer l'humain, avec le chatbot aussi, c'était assez évident. Mais voilà, vraiment réfléchir à l'importance de la médiation humaine au moment où tout se numérise et sûrement pas la supprimer. Voilà, je vous remercie.